Vous allez écouter un message de l'Église Nouvel Espoir à Ottawa, en Ontario, au Canada. Ce message a pour but votre transformation afin de transformer votre famille, votre ville, votre entourage. L'Église Nouvel Espoir, c'est des vies transformées pour transformer.
On a eu une très grande semaine et ça vient bien, ça vient très bien avec le message d'aujourd'hui. Des belles choses sont arrivées, mais on a eu plus de semaines que de temps. Il y a des semaines qui sont comme ça, tu as plus de semaines que de temps. Tout arrive en même temps. Et Dieu est bon parce que quand j'ai commencé le ministère, un de mes mentors, le pasteur Marc Lecomte, m'a dit, « Pasteur Emmanuel, le ministère, c'est la gestion du chaos. » Il dit, « Tu vas toujours gérer le chaos. » Je dis, « Ah bon? » Il dit, c'est ça aussi la vie chrétienne. Il dit, la vie chrétienne, c'est la gestion continuelle du chaos. Et vraiment, j'ai été toujours, à chaque fois que les choses sortent de mon agenda, je dis, Seigneur, merci. Et c'est là qu'on doit s'abandonner au Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a deux personnes qui comprennent où est-ce que je vais un peu ce matin? Deux personnes. Mais n'ayez crainte, à la fin du service, vous allez comprendre où est-ce que je vais avec ça. Et en tout cas, cette semaine, il y a eu des belles choses qui sont arrivées. On était avec Baudy à la Cité collégiale. On a reçu un prix, il y avait le représentant du maire là-bas. Et votre église est connue à l'extérieur des murs. C'est vraiment une belle semaine. Une belle semaine. Body avec la BD, hein, aussi, c'était très bon. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des BD en arrière aussi. Si vous voulez voir la bande dessinée et à la page 14, il y a un moment divin que Body a eu où est-ce qu'il a dit, non, l'église Nouvel Espoir doit être dans la BD. Alors, ne manquez pas de lire la page 14 et on espère que vous allez aller et encourager notre frère. Cette bande dessinée sera partout dans le CEPO et partout, je pense, à toutes les personnes qui en parlent, même le député Maurice Bélanger, était vraiment, vraiment touché par ce travail. C'est du bon travail. Amen. On doit s'arrêter et célébrer le bon travail. Inclinons nos têtes. Père Céleste, je te remercie. Je te remercie pour ton peuple qui est venu s'abreuver, ton peuple qui est venu chercher, ton peuple. Toi, tu connais. Tu connais comment leur cœur est arrivé ici dans ce lieu. Seigneur, ne me permets pas de dire des choses qui ne viennent pas de toi. Ne me permets pas d'être un obstacle à ton esprit. Et permets à tes enfants d'entendre la voix derrière la voix, dans ton nom tout-puissant. Amen. On va rentrer dans une des séries que je pense va être une des séries les plus intéressantes que nous n'avons pas eues ici à l'Église Nouvel Espoir, la série sur le livre de Romains. Le livre de Romains ou l'Épître aux Romains, la lettre de Romains, pour être plus précis, est une lettre qui a été écrite par Paul aux Romains et c'est une des plus belles lettres jamais écrites. Une des plus belles lettres jamais écrites. Et moi-même, quand j'étudiais le texte, j'étudiais de manière historique, j'étais surpris. C'est la plus belle lettre de Paul. Tous les théologiens de concert se mettent, tous les étudiants, tous les érudits de la parole de Dieu vous diront que c'est la plus belle lettre de Paul. Et ce qui est encore plus pertinent par rapport à cette lettre, c'est que le contexte des Romains est un peu comme notre contexte d'aujourd'hui. Et je vous vois un peu, on va faire juste un peu de contextualisation. Au niveau de la technologie, Rome avait la technologie et la suprématie absolue. Rome a créé de grands stades, Rome a créé de grands palais, et ils étaient reconnus pour leur technologie, les aqueducs. L'aqueduc, en d'autres mots, c'est quoi? C'est les fosses septiques et aussi c'est l'eau courante à la maison. Donc, déjà, en 40 avant Jésus-Christ, il y avait des maisons qui avaient de l'eau courante. Et c'est pour cela que les gens, il y a des multitudes à un moment dans Rome, il y avait à peu près 1 million de personnes qui vivaient à Rome parce qu'il y avait toute une technologie. Comme aujourd'hui, on va vers les villes où est-ce qu'on peut trouver du travail, où est-ce qu'il y a la technologie et où est-ce que la vie est bonne. La ville de Rome, c'était une belle ville où habiter. Aussi, une chose que je dois dire sur Rome et sur la technologie de Rome est le premier empire à intégrer des étrangers. Et c'est ce qui a fait leur force au départ. Parce que quand Rome a commencé, il y avait des gens de ci et de là qui venaient et qui s'intégraient. Et quand tu pouvais emmener à Rome ta connaissance, et ta connaissance mélangée avec la connaissance romaine faisait avancer les choses. Pour ceux qui ont déjà entendu la légende de Romulus et Rémus, ceux qui étaient attentifs à l'école, c'est deux personnes qui ont été élevées par une louve. Et on parle dans la légende que c'est les fondateurs de Rome, mais c'est une histoire pas mal intéressante et qui démontre un peu le côté plus ou moins beau de Rome et le côté tragique de Rome. Parce que Romulus et Rémus, qui commencent cette ville avec passion et tout ça, après avoir été élevés par une louve, ce qu'on dirait qui est miraculeux, le miracle de Rome, et juste quand ils arrivent à la construction de cette ville, ils ont une dispute, une des plus grandes disputes qui a eu lieu entre les deux. Et Romulus décide de tuer son frère Rémus. Et après l'avoir tué, il décide d'appeler la ville Rome. Alors, Rome, c'est ce mélange de beauté, de miracle, mais aussi de tragédie, de meurtre fratricide. Il y a des meurtres. Conséquemment, on voit des frères se tuer. D'ailleurs, Jules César, qui sera tué 40 ans avant Jésus, parce que quand Jésus est né, c'était Auguste, son neveu en soi, son neveu qu'il avait adopté. Mais Jules sera assassiné par le fameux Brutus, qui était son fils adoptif. Alors, nous voyons cela dans toute l'histoire de Rome. On le voit avec Néron dont la mère, Agrippa, s'est marié à son cousin. Il y a beaucoup de mariages dans la même famille et tout ça. Ça crée beaucoup de défis. Et on voit plus tard Néron qui perd la tête et qui tue sa mère. Il a eu trois tentatives d'assassinat de sa mère et finalement, il l'assassine. Elle prend l'épée. Elle dit au soldat qui la tue, « Tu vas me transpercer dans le ventre qui a porté l'empereur. » C'est tragique. Et c'est beau, parce qu'il y a la tragédie et il y a la beauté dans Rome, un peu comme aujourd'hui. On vit dans un monde qui, on a les véhicules, on a les autoroutes, on a les ascenseurs, on a la belle construction, mais dans les maisons, il y a beaucoup de tragédie. Il y a deux personnes qui disent « Amen », mais je crois que vous êtes avec moi là-dessus. Alors, la démesure de leur ambition a entraîné leur destruction. Et si vous avez fait un peu d'histoire, vous allez comprendre le terme suivant, le cloaca maxima, qui est à la prochaine diapo. Ils sont connus pour le cloaca maxima. En d'autres mots, c'est les égouts. Rome est la première ville à créer des égouts. D'ailleurs, certains de ces égouts existent jusqu'à aujourd'hui. Alors, toute la ville avait des égouts. Et ce qui arrive avec l'être humain, quand nous sommes plus propres, parce que Rome avait l'eau, et les Romains étaient connus comme propres, ils se lavaient, ils avaient leur douche tous les jours. Ils se pensent, à un moment, quand on se lave tous les jours, on pense qu'on est plus intelligent que celui qui ne se lave pas. Et les Romains, c'est ça, c'était la dignité, c'était la propreté, c'était l'élégance, c'était aussi le travail. Rome est connue aussi pour son système démocrate. Au départ, Rome a commencé avec la démocratie. Il y avait un Sénat. Et Jules a décidé, à un moment, Jules qui était un général, il a décidé de se donner tous les pouvoirs. C'était une société polythéiste, un peu comme aujourd'hui. Tu ne pouvais pas dire « il y a un seul Dieu ». Tu peux dire « il y a un seul chemin ». Tu ne peux pas dire ça. En Rome, il y avait plusieurs dieux, il y avait plusieurs chemins. Et on pouvait y arriver de plusieurs manières. On sentait le zin, le zen et toutes les choses. Il y avait un mélange comme aujourd'hui. Rome est reconnue aussi pour le plaisir. La prochaine diapo, on avait les cirques. Comme aujourd'hui, on va au cinéma, on regarde. Je me rappelle encore qu'il y a quelques années, j'aidais quelqu'un à sortir d'un cycle de peur. Et il me dit, « Pasteur, j'ai peur. Et toutes les nuits, je n'arrive pas à dormir. J'ai de l'insomnie, j'ai toujours peur. » Et là, je vais chez lui et je vois une collection de films d'horreur. Je lui dis, « Mais peut-être que tu devrais te débarrasser de tes films d'horreur. » Il dit, « Non, 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 je n'ai pas peur quand je les vois. » Je dis, mais je suis ici, pourquoi? Des fois, on peut être très incohérent. Mais un peu comme dans ce temps-là, à Rome, on allait au cirque pour voir quoi? Le matin, tu pouvais voir des gens se faire manger par des lions. Et vers midi, on tuait les prisonniers. Et l'après-midi, il y avait le combat entre les gladiateurs. Et c'était ça. Tous les jours, il y avait un spectacle dans le Coliséeum. Et à Rome, si tu voulais voir le film du matin, et c'était comme on va aujourd'hui au cinéma, je ne suis pas contre la télé, là, mais je dis, comme on va aujourd'hui au cinéma, ces gens allaient au cirque, et au cirque, le matin, on leur disait, OK, ce matin, nous allons voir parmi les barbares, parmi les peuples que nous sommes allés, parce que Rome avait la paix, cherchait la paix, était bâtie sur la paix, mais cette paix était bâtie sur la guerre. Et parmi les peuples qu'on a conquis, on va, vous allez voir ce matin un des rois qui causait des problèmes. Et qu'est-ce qu'on va faire? Il va se faire manger par un lion. Ah, quel spectacle! Je ne peux pas manquer ça ce matin. Et c'est comme ça qu'ils allaient le matin. Et vers midi, celui qui avait été rebelle au Sénat, on le faisait égorger. Je m'excuse d'être graphique avec vous. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le UFC aussi. Je ne suis pas contre tout ce qu'on peut voir à la télé, mais parfois il nous arrive d'être assis et de regarder des gens se frapper et saigner, et on est là, on mange des pop-corns, et juste comme ça. À la fin de la journée, on peut faire un parallélisme par rapport à la société romaine et notre société, parce que les gladiateurs aussi étaient payés. À la fin de la journée, un gladiateur, parmi les gens qui sont devenus très riches, c'était les gladiateurs. Ceci dit, tu risquais ta vie. Et Rome est connue aussi pour l'armée. Ils avaient une armée, les gens avaient peur de l'armée romaine. Parce que l'armée romaine, elle allait partout. Partout dans le monde connu. L'Amérique du Nord n'était pas encore connue. Alors, Rome a été un empire qui s'est étendu pas seulement en Europe, pas seulement jusqu'à l'Angleterre, mais c'est un empire qui était sur trois continents. Elle était en Europe, elle était en Asie, elle était aussi en Afrique. Toute la région de Cyrène, c'est un empire qui dominait. Rome était connu aussi pour ses orgies. Et à la prochaine diapo, on a ce qu'on peut voir, ça c'est les gladiateurs, à la prochaine diapo, on a ce qu'on peut voir, j'ai essayé de censurer les choses un peu, on est à l'église, vous pouvez rire. Et Rome était connu pour ses orgies. Malheureusement, aujourd'hui, on ne le dit pas assez, mais trop de jeunes vivent leur vie de cette manière dépravée et viennent le dimanche, car tu es Dieu. Dieu est un Dieu d'amour, mais ici, Paul va parler de cela. Paul va éveiller les gens par rapport à une vie. Jésus est venu nous donner une vie, un style de vie qui nous donne le bonheur, un style de vie qui nous donne la vie éternelle. Et à Rome, à un moment, c'était rendu la dépravation totale. On ne savait plus qui était avec qui était marié avec qui. D'ailleurs, avec les rois, si vous lisez l'histoire Caligula, qui va chercher sa nièce, il y a des mariages inter dans la même famille, la sœur qui se marie avec le frère. Il y a des jeux de manipulation dans tout cela. On cherche des maris pour avoir de l'emploi. On cherche à se positionner. Agrippa, c'est quelqu'un qui a manipulé pour arriver au pouvoir. Il se marie à Claude. Claude était quelqu'un de très laid. L'empereur Claude, il est reconnu de tous les temps. Laid, il salivait. Il n'était pas beau à voir. Ceci dit, Agrippa, elle était ambitieuse. Elle est allée vers Claude pour emmener son fils au pouvoir, mais elle ne savait pas que son fils aurait été le plus grand psychopathe de toute l'histoire de l'humanité. Parce que Néron, pendant que son peuple est en train de brûler, il est en train de composer une chanson. Hein? Vous la connaissez, Néron? Néron, il avait beaucoup de défis, Néron. Mais quand vous lisez l'histoire de Rome, vous réalisez que c'est proche de nous. On voit les dictateurs du monde qui se font des grandes maisons, des grands lieux, pendant que leur population est en train de mourir. Rome est très proche de nous. Rome, tout en ayant ce système démocratique à Rome, partout où est-ce qu'ils allaient, ils ne donnaient pas de la démocratie. Ils contrôlaient les lieux où est-ce qu'ils allaient. Pourquoi? Pour la matière première. Alors, c'est très proche de nous. Et Paul, le plus grand rêve de Paul, comme le dit Luc Dumont, c'était d'aller à Rome. Quand Paul écrit cette lettre, Paul n'a pas encore été à Rome. C'est un rêve. Paul a entendu parler des chrétiens de Rome. Pourquoi a-t-il entendu parler des chrétiens de Rome? Premièrement, parce que probablement, qu'est-ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte? Il y avait des gens de partout. Il y a des gens qui se sont convertis, qui sont allés vers Rome. Et cette ville était la ville centrale. C'est comme aujourd'hui, on entend les chrétiens d'Australie. On a été à un concert d'Hillsongs. Waouh, c'était quelque chose. Pourquoi? Parce que Sydney, l'Australie, c'est des villes centrales, un peu comme si je vous parle de New York aujourd'hui. Rome, c'est de là où venait la culture. D'ailleurs, aujourd'hui, on a beaucoup, tout ce qu'on a pris, le système politique, le système de justice, vient du système romain. Alors, Rome était le centre du monde. Alors, quand il y avait une église à Rome, on parlait de cette église-là. On disait, oh, s'il y a une place, où est-ce qu'il faut être? C'est à Rome. Et Paul était passionné parce que Paul savait que s'il atteignait les Romains, il atteindrait le monde entier. Rome est la première force à avoir fait des routes. Et ces routes sont là jusqu'à aujourd'hui. C'est fantastique. Vous pouvez, vous-même, si vous aimez l'archéologie, vous pouvez faire de la recherche et voir les routes romaines. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire les mêmes routes avec la technologie parce que c'était des milliers de personnes qui étaient mis ensemble. Il y avait des esclaves, parce que dans Rome, on dit que le deux tiers de Rome étaient des esclaves. Un tiers étaient des riches et deux tiers étaient des esclaves. Alors, vous imaginez le travail, les gens qui étaient dans un travail ardu, les gens qui étaient dans une discipline. Et cette discipline, c'est tout ça qui a bâti tous ces lieux et toutes ces routes. Et pourquoi ils avaient bâti les routes? C'était parce qu'ils voulaient contrôler tous les autres pays, tous les autres lieux qui étaient autour et pour pouvoir l'inclure dans l'Empire romain. Alors, quand il y avait de la rébellion, le gouverneur ou le chef du coin avait peur parce qu'il savait qu'avec les routes, ça va prendre combien de temps avant qu'une légion romaine vienne ici. Donc, on se faisait les routes, ce n'était pas seulement pour avoir des belles routes, mais c'était aussi pour des traits militaires, un peu comme aujourd'hui, on a des MiG-26. Pour ceux qui connaissent un peu les avions de guerre, les MiG-26, quand vous entendez qu'un MiG-26 va venir sur votre terrain, quand les États-Unis menacent un pays, ils disent « on va envoyer 5 MiG-26 », le président a peur. Parce qu'on ne blague pas avec les MiG-26. Les MiG-26, ça passe tous les radars et tout ça. Et dans ce temps-là, quand Rome faisait une route, on respectait Rome. Et Paul est là dans ce contexte. Dans cette série, nous allons voir que Paul a parlé de 5 choses. Et durant toute cette série, je vous invite à ne pas manquer, parce que chaque semaine va être meilleure que celle-ci. Chaque semaine va avoir quelque chose de plus. La première des choses que nous verrons la semaine prochaine, c'est la vérité captive. Cette vérité est encore cachée aujourd'hui. Cette vérité, nous la recherchons encore aujourd'hui. La deuxième des choses que nous verrons, c'est la foi en Jésus. C'est quoi la foi en Jésus? Plusieurs ont dit, mais j'ai la foi en Jésus. Et on va y toucher un peu aujourd'hui. Parce que la foi en Jésus est devenue quelque chose d'un peu facile. C'est devenu un peu comme on accepte une chaussure Nike ou comme on accepte un hamburger. Est-ce que c'était ça? C'était ça la foi en Jésus? Et à Rome, il fallait que Paul soit clair sur sa définition de la foi en Jésus. Parce qu'il y avait plusieurs dieux. Est-ce que je peux suivre Dieu comme je suis Jupiter? Est-ce que je peux suivre Jésus comme je m'en vais vers Saturne? Et Paul a clarifié cela, et c'est très bon, c'est très bien pour nous, parce qu'aujourd'hui, est-ce que mon zen, c'est Dieu? Est-ce que quand j'ai des sentiments à l'intérieur de moi, je pense, Dieu connaît mon cœur. On l'a tous entendu, hein? Dieu voit mon cœur. Oui, c'est vrai que Dieu voit ton cœur, mais comme on regarde à un arbre, Dieu regarde ton fruit aussi. Donc, Dieu, il voit ton cœur, mais il veut du fruit aussi. Nous allons voir aussi la vie d'un croyant. Quelle est la vie d'un croyant? Comment un croyant doit se discipler et tout ça? Nous allons voir le danger et le défi du libre choix. Tu as le choix de faire le bien ou le mal. Des fois, on prie, « Seigneur, permets-moi de faire le bien. » Prie, mais à la fin, la décision est tienne. Sinon, on n'irait pas en enfer. Le choix est nôtre. Si je décide aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a dit cette semaine, il m'a dit, vous savez, pour choisir des leaders, pour choisir des gens à l'église à travailler, il faut choisir des gens qui ne sont pas à risque. Et je lui ai donné la réponse suivante, nous sommes tous des personnes à risque. Tout le monde ici est à risque. Parce que tous les matins, toutes les heures, vous pouvez faire un mauvais choix. Alors, il nous faut savoir avoir cette réalité que nous sommes à risque. Mais Seigneur, montre-moi comment diriger mon libre choix. Et nous allons voir qu'est-ce que Paul donne comme conseil. Et finalement, à la fin, nous allons voir le pourquoi de la transformation, le service. Le service. Dans un temps, dans une société comme la société romaine, où est-ce qu'on allait à des places, on se faisait servir. Quand ils allaient au Colisée, ils avaient du popcorn, C'était pas du pop-corn, mais ils avaient de la nourriture, ils étaient bien. Le Colisée, il y avait même un toit qui les protégeait du soleil. Ils étaient confortables à voir des gens. Ils étaient là pour voir un show. Comme aujourd'hui, on s'en va regarder le football. On s'en va, on voit le hockey, tout ça. Et parfois, avec cette mentalité de consommateur, on arrive à l'église avec la même idée de consommation. Et on dit, Seigneur, je viens dans ta présence, mais Seigneur, j'ai besoin de mon service puis d'être confortable. Et Paul aborde cela. Manque pas, ça va vraiment te motiver, tu vas vraiment aimer. Aujourd'hui, on est dans Romains 1. Et dans Romains 1, Paul dit quelque chose qui est une clé pour la vie chrétienne. Paul dit quelque chose qui, parfois, on le prend à la légère, cette phrase. On prend vraiment à la légère cette phrase que Paul dit. Paul dit, « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Dans tout le contexte que je vous ai donné, certains d'entre vous, vous avez peut-être fait le lien avec notre société aujourd'hui. Dire aujourd'hui, je crois en Jésus, Jésus est le seul chemin, est une chose difficile. Et pour Paul, de dire aux Romains, je n'ai point honte de l'Évangile, pour Paul, d'encourager les Romains à ne pas avoir honte de leur foi, était une chose forte. C'était une chose qui, un énoncé qui emmenait le peuple, qui emmenait les Romains à réaliser qu'il n'y a aucune puissance en Jésus sans pour autant être un peu zélé, pour ne pas dire zélé pour Jésus. Et Paul, il est dans ce contexte et dans ce temps-là, et il était très facile pour les gens de prendre à la légère cette phrase. Et ici, j'aimerais faire un lien par rapport à une chose, par rapport à une chose qui est faite dans l'Église aujourd'hui, et on le fait depuis au moins 50 ans. On emmène les gens à la repentance. Et très souvent, même en tant qu'Église, vous allez voir, même dans les questionnaires que nous avons, on va vous poser la question, quelle est la journée de ta nouvelle naissance? Quelle est la journée où est-ce que tu as pris cette décision de suivre Jésus? Et c'est bien de prendre la décision de suivre Jésus. C'est bien d'évoluer dans cette direction. Mais il y a des choses là-dedans dont Paul vient faire une correction avec cet énoncé. La première des choses, c'est que dans cette prière, très souvent, vous avez peut-être une prière plus particulière, mais j'en ai mis une en avant, on dit « Dieu, je sais que je suis pécheur ». C'est un bon commencement. Je sais que je suis pécheur. Je sais que je mérite les conséquences de mes péchés. La première des choses que Paul essaie de dire ici, c'est qu'avant de vouloir la vie éternelle, il faut comprendre de quoi nous sommes emprisonnés. Quel est notre défi? Et je crois aujourd'hui encore, un des plus grands défis en tant que prédicateur, un des plus grands défis en tant qu'Église, c'est de faire réaliser aux gens la réalité du péché. Pour quelqu'un qui est en prison, qui entend des clés, si aujourd'hui j'ai un set de clés et je le fais sonner devant vous, ça ne vous dit rien. Ça veut dire, ben oui, est-ce qu'il veut me montrer quelle voiture il a? Ou pourquoi il bouge ce set de clés? Mais pour quelqu'un qui est en prison et qui entend un set de clés, il y a quelque chose. Parce qu'il sait que peut-être aujourd'hui il sort, peut-être qu'il a une sortie, peut-être qu'il peut marcher, peut-être qu'il peut aller dans la cour aujourd'hui. Il y a une joie à entendre un set de clés. La même chose en tant que croyant, quand tu réalises le péché, quand tu réalises ce que le péché fait dans ta vie. Parce que très souvent, on peut banaliser les choses en disant, tout le monde est pécheur, moi aussi. Mais non, Paul ici, avec cette phrase, veut dire que Christ en toi t'a donné une puissance. Christ en toi t'a donné un espoir au-delà de tout espoir. Vous savez, on peut dire à certaines personnes, tu as tout dans la vie, tu as ta maison, tu as une belle famille, tu as la santé. Tout ce que tu as besoin, c'est Jésus. Mais moi, j'aimerais te dire que tu peux avoir toutes ces affaires-là, si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Tu n'as rien. Et c'est ce que Paul veut dire ici. Jésus, c'est plus que n'importe quoi. J'ai eu cette pensée cette semaine. Parfois, on pose la question à des non-croyants, on dit, est-ce que vous voulez aller au ciel? je trouve que cette question, elle est un peu futile, parce que tout le monde veut aller au ciel. Même la personne qui vous dit « Non, moi, je vais aller en enfer », elle veut vraiment aller au ciel. Il n'y a personne qui veut brûler toute sa vie, crier toute sa vie, être dans le feu toute sa vie, être dans la souffrance toute sa vie. « Oh, moi, je ne crois pas à ces affaires-là, j'irai en enfer. » Non, la raison pour laquelle elle dit ça, c'est parce qu'elle ne pense pas que l'enfer existe. Mais réellement, tout le monde veut aller au ciel. Mais la grosse majorité, même dans l'Église, parfois même les pasteurs, on veut aller au ciel, mais on ne veut pas de Dieu au ciel. Parce que ce qui fait du ciel le ciel, ce n'est pas les routes en or. Ce n'est pas les belles maisons qu'on va avoir au ciel. Ce n'est pas toute la beauté du ciel, mais ce qui fait du ciel le ciel, c'est Dieu. Pour ça, Jésus a dit, le royaume est ici. Jésus a dit, vous cherchez le royaume, mais le royaume est avec vous, parce que le royaume, c'est qu'il te connaisse. Ah, quelqu'un devrait dire amen ici. Et dans cette prière, quand nous réalisons que nous sommes pécheurs, quand nous réalisons la mort dans laquelle nous étions, il y a une révélation qui arrive. Il y a une lumière qui arrive. Il y a dans les circonstances les plus sombres de ma vie, je sais que mon Rédempteur vit, je sais que sur lui j'ai fondé ma vie, je sais que je peux avancer avec lui. Deuxième chose qu'on apprend dans cette prière, des fois, c'est « Cependant, je crois que Jésus est mon Sauveur. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour moi, pour le pardon de mes péchés. » Et quand on fait cette prière, on continue en disant « Je crois en Jésus et en Jésus seul, comme étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Seigneur de m'avoir sauvé et pardonné. Amen. » Mais quand tu fais ta prière, et quand tu fais cette prière, le défi, c'est de croire que c'est cette prière qui fait que tu es accepté dans le royaume des cieux. Et c'est ce que Paul veut dire. Et aujourd'hui, ma question pour toi, c'est est-ce que tu as honte de l'Évangile? Parce que la vraie question, c'est, ce n'est pas est-ce que tu as accepté Jésus dans ton cœur, mais c'est quelle relation tu as avec Jésus? Parce que si tu as une relation avec Jésus, tu es convaincu que tu vas vivre avec lui pour l'éternité. Mais si tu n'as pas de relation avec Jésus, tu n'as pas de puissance. Et c'est pour cela que dans les circonstances, tu vas être ébranlé. Ce qui fait qu'un chrétien n'est pas ébranlé, ce n'est pas les bonnes circonstances. On a vu les chrétiens, 15 chrétiens égyptiens qui se sont fait égorger, et il y en a un qui, juste avant s'être fait égorger, était là et disait, « Je sais que mon Rédempteur vit, je sais que je vais rencontrer mon Dieu. » Et il avait une conviction. Et nous pouvons être dans le plus beau pays et regarder la neige dehors et dire, oh, « Je ne pense pas qu'aujourd'hui je vais aller prier. » Hello? Ou regarder les circonstances de nos vies et dire comme un peu moi aujourd'hui, je ne vais pas dire vous, comme moi aujourd'hui, j'entends mon leader qui m'a dit aujourd'hui, non, je ne peux pas être là à cause d'un problème médical, et dire, Seigneur, pourquoi? C'est un petit problème, ça. Petit problème. Le vrai problème, c'est quelle est ma relation avec Jésus? Le vrai défi, c'est pas combien de personnes il va y avoir ici ce matin. C'est pas le sentiment, c'est pas ton confort. Ce n'est pas « je fais ce que je veux à l'église », c'est « quelle est ta relation avec Jésus? » Et c'est pour ça que Paul pouvait dire « je n'ai point honte de l'Évangile ». Tu n'as pas honte de quelque chose qui te sauve. Tu n'as pas honte de quelque chose qui te sauve. Si aujourd'hui tu es sauvé d'une maladie, si aujourd'hui tu es sauvé d'un cancer, si aujourd'hui tu es sauvé d'un défi particulier dans ta vie par un docteur qui te donne le médicament, quand tu le verras, il peut être habillé de manière inopportunée, tu iras le saluer. Pourquoi? Parce que en quelque part dans ton cœur, tu sais d'où est-ce qu'est venue ta solution. Et c'est la même chose. Si je connais Jésus, et aujourd'hui, ce n'est pas un message de condamnation, c'est un message de motivation. Amen. Si tu ne connais pas Jésus, tu sais ce que tu vas faire après le message? Tu vas aller dans ta chambre, tu vas chercher le cœur de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, je veux te connaître. Et tu vas prier jusqu'à ce que tu le connaisses. Maintenant, tu dis, j'ai du travail, pasteur. Prie une heure, puis demain, tu pries une autre heure. Le lendemain, tu pries une autre heure. Tu trouves un temps où est-ce que tu connais Jésus. C'est important. C'est important. La semaine passée, on a dit qu'on doit avoir de l'huile dans nos lampes. Mais c'est comme ça qu'on a de l'huile dans nos lampes. Ce n'est pas le montant de prédication qui nous donne de l'assurance. C'est le temps avec Jésus. Le temps avec Jésus. Hein, il y a plusieurs personnes qui vont à l'école, mais ce n'est pas tout le monde qui devient un bon mécanicien. C'est la personne qui pratique la mécanique. Parce que tu peux avoir tous les cours. Il y a des gens, j'ai un avocat qui avec le, que j'aborde beaucoup dans ma vie, et il m'a dit, il y a plusieurs personnes qui étaient plus intelligentes que moi à l'école. Quand j'allais à l'école, moi, je l'avais en général dans les 70-75%, mais il dit, aujourd'hui, moi, je suis mieux placé qu'eux. Il dit, pourquoi? Parce que moi, j'ai appris à la vie sociale. Moi, j'ai appris à pouvoir marcher, à pouvoir parler aux gens. J'ai appris aussi de l'expérience. Je crois que c'est la même chose avec la vie chrétienne. Tu peux connaître les versets, mais si tu ne connais pas Jésus, tu ne sais rien. Et c'est pour cela que cette lettre, dans cette lettre, j'ai commencé par le contexte. Parce qu'on a, je peux vous donner des versets sur Romains, mais si vous ne connaissez pas le contexte historique, si vous ne savez pas pourquoi Paul a écrit la lettre, ça va juste être des beaux mots. Vous allez dire, mais c'était poétique ce que le pasteur a dit aujourd'hui. Ah, je n'ai point honte de l'Évangile. Ah, j'aimerais dire cette phrase-là. Mais au-delà de la phrase, Paul vivait cette phrase. Et Paul, il y avait une sainte frustration en Paul en disant, vous, Romains, vous êtes dans la ville, vous êtes dans la capitale. Ce n'est pas le temps d'avoir honte de l'Évangile. C'est une puissance. Elle est plus puissante que Rome. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que l'Évangile est plus puissante que n'importe quel système. Et très souvent, on peut penser, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Mais j'aimerais te dire que cet Évangile guérit. Cet Évangile restaure. Et il n'y a aucun système qui guérit, mais l'Évangile de Jésus guérit. L'Évangile de Jésus te garde solide quand les gens vont te penser que tu dois être déprimé. L'Évangile de Jésus t'emmène, tu vis des temps difficiles, tu vis, tu as fait des gaffes, tu as peut-être vécu un divorce. L'Évangile te relève. C'est l'Évangile. J'aime quelqu'un qui m'a dit une fois, tout ce que j'ai, c'est Jésus. Alors, à qui irais-je? Tout ce que j'ai, c'est Jésus. J'aimerais que dans ta vie, tu réalises que tout ce que tu as, c'est Jésus, mais mieux voir Jésus qu'avoir le restant. Parce que si tu as Jésus, comme le dirait quelqu'un, c'est comme avoir le 1 devant tous les zéros. Tu as des milliers de zéros, mais Jésus est le 1. Oh. L'Évangile est l'accomplissement de la promesse. Dans le film suivant, j'avais un extrait pour vous. Malheureusement, on a eu certains problèmes techniques, mais ce n'est pas grave. On ne va pas se laisser limiter parce que je n'ai point honte de l'Évangile et c'est une puissance. On n'a pas besoin de vidéo pour parler du Seigneur. Nous savons que Dieu est capable d'agir sans vidéo. Mais à la prochaine diapo, suivante, nous avons ici un film qui s'appelle « Facing Your Giant ». Et dans ce film, il y a un extrait où est-ce que ce jeune enfant qui jouait au soccer, dont le père est paralysé, est sur une chaise roulante, et qui doit tirer dans un moment précis, il doit tirer cette balle, sinon son équipe va perdre. Et il est l'espoir de l'équipe. Mais le jeune n'a pas confiance en lui. Le jeune n'est pas certain, est-ce que vraiment, et son coach lui dit, écoute, que tu ne manques pas, ce n'est pas ce qu'on pense, mais pour l'instant, j'ai besoin de toi, et tu vas aller sur le terrain, et je veux que tu me donnes ton meilleur. Et moi, je vois cela comme la vie chrétienne. Et des fois, on va dire, mais Dieu, ben moi, est-ce que je suis appelé, je ne suis pas appelé, est-ce que je n'ai pas les meilleurs talents, ou tu travailles dans un service ici à l'église, et tu dis, ben, est-ce que je suis le meilleur, est-ce que je ne suis pas le meilleur? Il y a une chose que j'ai apprise dans la vie, c'est que ce ne sont pas les meilleurs qui réussissent dans la vie, c'est les plus persévérants. La persévérance, c'est la revanche des moins bons. Si tu es moins bon, persévère, tu iras plus loin que tous ceux qui sont bons. Persévère. 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 Ou est-ce que d'autres ne persévèrent pas? Toi, continue à persévérer. Ou est-ce que les gens haïssent, toi, aiment? Persévère. 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 Et ce jeune, il est allé. Mais vous savez, des fois, on obéit à Jésus, mais on n'a pas la bonne attitude. Je ne sais pas, ça ne vous est pas arrivé, mais moi, ça m'est arrivé. Alors, il s'en va, il n'était pas vraiment, il n'avait pas la bonne attitude, il n'était pas certain. Son père, qui est en chaise roulante, réalise que j'ai besoin d'être un Barnabas. J'ai besoin de barnabasser mon fils. J'invente un nouveau verbe aujourd'hui. Permettez-moi. Alors là, il va avec la chaise roulante, il se place devant son fils et il se lève. Et quand il se lève dans cette scène, très belle scène, vous irez voir le film. Et quand il se lève, il y a quelqu'un qui dit, « Monsieur, est-ce que je peux vous aider? » Il dit, « Non, ne m'aidez pas. Je me lève pour mon fils. » Vous savez, dans la vie, des fois, on a besoin des Barnabas. On a besoin des gens qui croient en nous. On a besoin des gens qui disent, « Écoute, je sais que les autres disent ça sur toi, mais tu sais quoi? Je me lève pour toi. Amen. Je suis là pour toi. Amen. J'intercède pour toi. Amen. Je t'appuie là-dedans. » Et quand il s'est levé, et vous allez me dire, c'est juste un film, mais j'aimerais te dire qu'il y a des circonstances. Cette semaine, j'étais avec des gens qui étaient dans des circonstances où est-ce qu'il y a des gens qui se sont levés pour eux, et aujourd'hui, ils accomplissent des grandes choses. Amen. Parlez à cet homme d'affaires qui est dans la construction. Cette semaine, et il m'expliquait comment il n'a pas pu, pour un certain moment, avoir des crédits. Il a perdu même sa maison dans le feu et tout ça. Et vous savez quoi? Il y a eu des Barnabas. Il y a des gens qui l'ont barnabassé. Et aujourd'hui, il se relève. Et aujourd'hui, il est un entrepreneur qui avance. Je lui disais, écoute, oui, il y a des gens qui ne t'ont pas aidé. Oui, vous savez, très souvent, quand il t'arrive des malheurs, c'est là que tu as abandonné. Mais j'aimerais te dire que Jésus n'abandonne pas. Amen. Les mouvements abandonnent. Les églises peuvent t'abandonner. Le pasteur peut t'abandonner. Hein? Le gouvernement peut t'abandonner. Mais accroche-toi à Jésus. Pourquoi je dis les églises même? Vous allez dire, mais comment le pasteur, il devrait faire la publicité de l'église? Les chrétiens devraient avoir leur confiance en Jésus. Pas au pasteur. Pas à l'église. Et la confiance en Jésus. Trop de chrétiens ont confiance au pasteur. Ça ne veut pas dire que tu viens à l'église et tu dis, « Ah, mon pasteur, il n'est pas honnête. » Non, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire que si tu places ta confiance en Jésus, ton église va être encore plus solide. Amen. Hey, je dirais encore plus loin. Je te dirais que si les chrétiens faisaient plus confiance en Jésus, même quand nos mouvements sont ébranlés, on continuerait à marcher avec Jésus. Jésus, il est inébranlable. Amen. Les mouvements, les structures, tout ça, c'est ébranlable. Ouais. Mais Jésus, il est inébranlable. Ouais. Mais moi, je ne crois plus parce que le système ne fonctionne pas. Jésus t'a dit de ne pas croire au système. Mais pourquoi tu fais confiance au système? Jésus t'a dit, fais-lui confiance. Amen. Regarde à lui. Amen. Moi, je peux te blesser. Aujourd'hui, je peux te dire quelque chose de motivant. Demain, je suis un pécheur. Jésus, lui, n'est pas un pécheur. Amen. Jésus, lui, n'est pas un pécheur. Connectons-nous à Jésus. Mais soyons des Barnabas les uns pour les autres. Et ayons en nous cette réalité quand on vient à l'église. Le frère, la sœur à côté de moi n'est pas parfait. Et là, des fois, les gens, « Oh, le frère m'a tellement blessé. Je ne peux plus le voir. » Tu veux vivre avec les gens longtemps? Pardonne! Moi j'ai trouvé que c'est la clé. La clé pour rester avec des gens longtemps, c'est pardonner. Si tu ne pardonnes pas, tu es seul et tu es amer. Parce que toi, tu as blessé une tonne de gens. Mais toi, tu ne sais pas. Hein? Toi, tu t'en vas et tu es tout parfait. Oh, hein? Alléluia. Ce n'est pas moi qui les ai blessés. C'est parce qu'ils m'ont provoqué. Et tu, tout religieusement, tu te protèges. Et là, tout le monde t'a fait du mal. Le système t'a fait du mal, les gens t'ont fait du mal, le patron t'a fait du mal, ton chat même t'a fait du mal. Et Dieu aimerait te dire ce matin, Dieu aimerait te dire, Barnabas quelqu'un. Barnabas. Et Paul a appris cela. Paul, au début, il était très, très agité, il était très passionné et tout ça. Et à un moment, Jean-Marc s'en va en voyage avec son cousin, Barnabas, et avec Paul. Et pendant le voyage, Jean-Marc commence à penser à maman. Et il y a toujours un petit garçon qui va penser à maman. Ah, la soupe de maman, c'était mieux, hein? Ah, vraiment, quand on était... Et Jean-Marc dit à Paul, écoute, là, moi, là, votre affaire, là, votre évangélisation, c'est fort, mais moi, c'est la soupe à maman. Bye! Et quand Jean-Marc part et tout ça, on dit que Paul était vraiment fâché, mais il a gardé ça dedans. Mais dans son cœur, il a dit « plus jamais ». Faites attention au « plus jamais ». Parce que Dieu, il aime ça quand vous dites plus jamais, il ramène la chose. Plus jamais. Et là, quand il a continué, quelques mois plus tard, qu'est-ce qui arrive? Barnabas lui dit, au prochain voyage, on va emmener avec nous Jean-Marc. Là, Paul dit, Jean-Marc qui? Et mon cousin, il dit, cousin? Non, non, non. Le gars, là, il nous a abandonnés. J'ai dû transporter ses sacs et tout ça, il nous a laissés. Toi, tu veux l'emmener avec moi? Non, non, non. Impardonnable. Vous savez, des fois, on prêche le pardon, mais on ne pardonne pas. Et là, Paul et Barnabas, on dit, ils ont eu une conversation forte. Ça, c'est la beauté de la Bible. Hein. Lisez en arrière les mots. Une forte conversation, ça veut dire une chicane. En termes de ce jour, ils se sont chicanés. Et ils ont dû se séparer. Divorce. Division. Mais ce qui est intéressant, dans le prochain verset, on n'entend pas « Les chrétiens ont été découragés, ils ont décidé de lâcher la foi, ils ont arrêté de prier à cause de la dispute qu'il y a eu entre Barnabas et Paul. » Non! Parce que c'est des choses qui arrivent entre les êtres humains. On est des humains, où est-ce qu'il y a des humains? Où est-ce qu'il y a des cochons? Il y a la cochonnerie. Où est-ce qu'il y a des humains? Il y a l'hommerie. Et c'est dans ce contexte-là qu'il vient, mais à la fin de sa vie, c'est qui va visiter Paul? C'est Jean-Marc, le fils à maman. C'est lui qui emmène le lunch. Et Paul écrit, « Ah, merci de m'avoir envoyé Jean-Marc, il m'est utile. » Ah oui, c'est drôle, la personne qui était inutile est devenue utile. Alors, j'aimerais te dire, pardonne. Parce que tu ne sais pas si cette personne qui est à côté de toi a été choisie pour ta bénédiction future. Pardonne. Moi, j'ai fait du mal aux gens. Je demande pardon. Mais la même chose, je dois pardonner ceux qui m'ont fait du mal. Et ça prend de l'humilité. C'est-à-dire, dans la vie, je n'aurai pas toujours raison. Dans la vie, peut-être telle personne. Et des fois, aussi, il ne faut pas oublier, il y a aussi la jeunesse, hein. Vous ne pouvez pas arriver, vous êtes là, vous êtes un mentor pour quelqu'un et vous voyez, mais il fait 2, 3, 4 erreurs. Mais des fois, en tant que parent, on oublie qu'on a été jeune. Hein. Et ton enfant, moi j'aime beaucoup avec mes enfants parce que des fois, je lui dis, mais pourquoi tu as fait ça? Puis après, je vais dans ma chambre puis je ris. J'ai dit, waouh, parce que je vois dans ma jeunesse quand j'ai fait la même chose. Je dis, ah, OK. Mais tu sais, ce qui arrive avec souvent les parents, on a toujours cette histoire, puis je vais briser un mythe pour les jeunes qui sont ici. Peut-être votre père vous a toujours dit, ah, moi, quand j'étais à l'école, j'avais 90%. Je réussissais dans tout, mathématiques, français, tout ça. Mais comment tu ne te concentres pas? Il avait 60%. Je vous dis. On dirait tous les parents, dans le temps, la génération d'avant a toujours 90%. Il n'y a personne qui avait C. Donc, à vous de comprendre. Et Dieu veut ici que nous ayons un cœur les uns pour les autres. Et c'est ça qu'on prend de la puissance de Dieu, que nous soyons des Barnabas. L'autre chose, c'est pour le salut de quiconque croit. Premièrement, les Juifs. C'est-à-dire, il y a un zèle. Premièrement, c'est nous. Moi ici, quand je parle de l'Évangile, quand je parle de l'Église, quand je parle de l'onction, je dis premièrement, nouvel espoir. C'est-à-dire, oh, pourquoi ils pensent juste à... Non, mais il faut commencer par toi. Paul dit, d'abord ici, les Juifs, après les Grecs. Après vous autres. D'abord nous, parce qu'il a soif, il sait que le royaume des cieux appartient aux violents. Pas en venant à l'église, ah bah, ce qui se passe là-bas, c'est plus fort que ce qui se passe. Ça, ce matin, j'ai dit, j'ai un fan club. Hey, le matin, ils étaient là, yes! C'est comme ça qu'un lieu grandit. Si vous arrivez, vous n'êtes pas content, vous n'aimez pas votre famille, tu n'aimes pas tes enfants. Comment sont tes enfants? Ils ne sont pas très intelligents. Ta famille, oh bah, c'est comme ça. Mais il n'y a personne qui va venir. Commence à être positif. Ah, mais ils sont géniaux. Puis regarde les choses qu'ils ont. Regarde leurs habiletés. Et essaye de les faire évoluer dans leurs habiletés. Vous savez, la vie, elle nous passe sur le corps. Peut-être que ça ne vous est pas arrivé, mais c'est arrivé à un homme qui s'appelle Chris Gardner. Chris Gardner, pour ceux qui ont vu le film « À la recherche du bonheur », c'est une vraie histoire. Cet homme, Chris Gardner, est aujourd'hui un multimillionnaire, mais il n'a pas toujours été un multimillionnaire. Cet homme a vécu au début des années 80 comme sans-abri. Mais avant d'être un sans-abri, il était militaire, il était dans l'armée américaine, il a trouvé un bon travail, et tout ça s'est placé dans une ville aux États-Unis. Et dans cette ville, il était marié à une jeune épouse, tout était radieux. La vie était radieuse. Il pouvait aller à l'église avec son enfant, avec sa femme, bien coiffé. Vous savez, comme des fois, on nous habitue à être des Barbie et Ken. T'arrives Barbie Ken ou Barbie Ken noir et voilà, ils sont là, alléluia. La présence de Dieu, tu es tout propre. C'était le couple Barbie Ken. Mais il y a quelque chose, il y avait une passion plus forte dans son cœur parce que lui, toute sa vie, son père lui avait dit, t'es rien, t'as pas de père, t'as pas, parce qu'il a été élevé par son beau-père. Et son beau-père lui disait des paroles de mort tous les jours. Il disait, t'as pas de père, tu es un voyou, tu es un bandit, tu feras jamais rien. Et il dit dans son cœur, tu sais, des moments, il dit même, ce beau-père était tellement violent qu'à un moment, il a même tapé sa mère. Sa mère a été en prison pour plusieurs fois et tout ça, parce qu'à un moment, elle s'est tellement fait battre qu'elle a voulu brûler la maison où est-ce qu'était l'homme et ce mari qui l'a frappé. Et elle a été arrêtée pour tentative de meurtre. En tout cas, il y a des choses tristes qui peuvent arriver dans la vie des gens. Et là, il a évolué, mais il a évolué avec ses paroles de mort. Mais il dit qu'à l'intérieur de lui-même, à chaque fois qu'on lui disait, « T'es pas bon, tu vas jamais rien faire dans ta vie. » Et tout ça, lui disait, « C'est pas grave, je vais te montrer, je vais pas être un homme comme toi. Moi, je vais aimer. Je vais aimer mes enfants. Je vais tout faire pour mes enfants. Je vais réussir et tout ça. » Et il y avait cette motivation à l'intérieur de lui. Et année par année, là, avec ce petit travail qu'il avait avec son couple et tout ça, il y avait quelque chose qui le dérangeait. Il disait, mais il y a quelque chose, peut-être il y a un autre travail que je peux faire. Et un jour, il a rencontré un gars dans une Lamborghini et il s'est dit, waouh, qu'est-ce que ce gars fait? Je veux savoir qu'est-ce que ce gars fait. J'aimerais te dire que si tu es chrétien et tu as de l'ambition, c'est bien d'avoir de l'ambition. C'est bien. Très souvent, on a dit, tu es chrétien, non, contente-toi seulement. Non. Dieu, si tu as l'ambition, Dieu a mis des fois l'ambition dans certains cœurs. Dans son cœur, Dieu a mis de l'ambition. Il voulait plus que le petit pain, plus. Et nous avons besoin de chrétiens qui ont de l'ambition. Si on veut que cette église avance, il faut des gens qui sont dans le milieu de la business, il faut des gens qui avancent, il faut des gens qui disent, écoute, moi je veux plus que le petit pain pour être capable de financer les choses de Dieu. Amen. Deux personnes disent amen. Amen. Et cette personne, elle a commencé à évoluer, tout ça, et il est allé parler, il a dit, je vais m'asseoir avec toi. Deux questions qu'il lui a posées, qu'est-ce que tu fais comme travail et comment tu as fait pour rentrer là-dedans. Et la personne lui a dit, je travaille dans le stock, dans la bourse, et elle lui a dit comment, elle dit, viens me voir demain, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire comme étude et tout ça, parce que lui n'avait pas fait des études universitaires. Et tous les jours, il est allé voir cette personne. Tous les jours. Mais il y a juste eu un problème, c'est que où est-ce qu'il stationnait, il avait des tickets tous les jours. Tous les jours. Alors, il s'est amassé vraiment une grande dette de tickets et il a commencé à avoir certaines disputes avec son épouse, parce que son épouse disait, mais comment tu n'as pas été au travail, tout ça, aujourd'hui, et tout ça. Et ils avaient des disputes et le couple, vous savez, quand l'argent diminue dans le foyer, il y a beaucoup de disputes. Pas d'argent, dispute. C'est juste naturel. Pour ceux qui sont mariés, dites pas « Amen ». C'est correct. Et il y avait vraiment des défis et tout ça. Et un jour, ils ont une dispute. Le voisin a appelé la police. La police est arrivée. Et quand la police est arrivée, ils les ont séparés. Et un policier qui était là a vérifié la plaque de la voiture et il a vu qu'il avait à peu près 12 000 contraventions. Alors, le policier lui a parlé et tout ça, mais lui, il avait une excuse. C'était qu'il avait quitté son travail pour aller apprendre de la bourse, apprendre un peu comment ça fonctionnait la bourse. Et il avait le choix avec tout ce qu'il faisait, parce qu'il travaillait quand même, le gars. Il faisait de la peinture et tout ça. Il avait trouvé des petits jobs pour pouvoir apprendre comment le stock fonctionnait. C'était un projet à long terme. Et il s'est dit, mais avec l'argent que je gagne, je choisissais de nourrir ma famille et de payer mon rent ou mes frais de la maison, au lieu de payer les tickets. Maintenant, pour faire une courte histoire, je sais que c'est trop tard, et tout cela va en boule de neige. Sa femme décide de le quitter, parce qu'avec des grosses dettes, des gros problèmes, beaucoup de stress, elle s'en va, mais elle le laisse avec l'enfant. Et là, il reste dans une situation difficile parce qu'il doit s'occuper de l'enfant, en même temps, il doit aller apprendre étudier en même temps. Et alors, ils se retrouvent carrément dans la rue. Ils dorment, et on monte dans le document, même dans le film, on monte à un moment, ils dorment dans une toilette, pour plusieurs mois, dans une toilette publique, avec l'enfant, où est-ce qu'ils lavent l'enfant et tout ça. Et il doit aller faire un certain temps en prison. Et pendant le 10 jours qu'il devait faire en prison, sa femme accepte de prendre l'enfant. Mais il y a un autre défi qui s'éveille, c'est que dans le 10 jours, le 9e jour, il devait avoir son entrevue finale. Et là, il dit, il est en prison. Et il se dit, mais comment je vais aller à l'entrevue? Et il demande au garde dans la prison, puis je le sais, ayant travaillé dans la loi, qu'un garde de prison ne va pas te donner un téléphone. C'est probablement les gens les plus asociaux qui existent sur Terre, parce que c'est leur travail. Ça va avec le travail. Ils voient beaucoup de choses difficiles. C'est pas parce qu'ils veulent être méchants, mais ils vivent des circonstances qui sont néfastes, des choses que nous, on ne voit pas, puis on apprécie beaucoup le travail des gardes de prisonniers. Et en tout cas, ce garde de prison, pour une raison ou une autre, lui donne le téléphone, il prend le téléphone et appelle, et sa phrase était juste, « Est-ce qu'on peut changer le rendez-vous? » On lui dit oui, et est-ce qu'on peut le mettre un autre jour? Le monsieur lui a dit demain à 6h30. Et il sortait à 5h. Alors, il n'avait pas beaucoup de temps, il ne pouvait pas retourner chez lui à la maison et tout ça. Alors, il finit son temps en prison, il sort de prison, mais avant de rentrer en prison, il faisait de la peinture chez lui. Donc, il était habillé un peu de manière vraiment avec des accoutrements. Tu vas dans une entrevue comme ça, tu as besoin d'un veste, cravate, tu as besoin d'être présentable. Et il s'en va dans cet accoutrement avec un peu de peinture et tout ça. Et en tout cas, vous verrez le film et vous verrez même le document si vous voulez voir plus. C'est vraiment une belle scène, une scène touchante quand il a son entrevue. Parce qu'une des questions qu'on lui pose, on lui dit, si quelqu'un viendrait comme tu es habillé, est-ce que tu penses qu'on lui donnerait la chance d'avoir le travail? Il dit, il devrait avoir des beaux pantalons. Il devrait vraiment avoir des beaux pantalons parce que la manière qu'il était habillé, le haut, tout était, son accoutrement tenait à désirer. Mais ce qui arrive, c'est qu'il passe cette entrevue, et quand il passe cette entrevue, on l'engage, il travaille, et il commence à travailler. Et ce qui est touchant, c'est qu'il a transformé sa tragédie en témoignage. Mais là-dedans, il y avait une église. Une église qui aidait des femmes seules. Une église qui avait décidé de lui donner de la nourriture, pendant que dans la politique de cette église, on aidait juste les femmes seules. Mais le pasteur, quand le pasteur a vu cet homme rentrer avec un enfant, c'était tellement étrange. Parce qu'il n'avait jamais vu un homme avec un enfant aussi jeune rentrer. Alors, il a dit, quelle que soit notre politique, quels que soient les services qu'on donne, on va faire une exception. Qu'est-ce que je veux dire ici? Peut-être tu es au son. Peut-être tu viens à l'église, tu es à l'accueil. Peut-être tu es avec les enfants. Peut-être tu dis, ce que je fais n'a aucun symbole. Aucun sens. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui que le changement de cette loi, les bénévoles qui donnaient la nourriture tous les jours, aujourd'hui, cette Église même reçoit annuellement des dons. C'est des dons extraordinaires. Vous savez, quand vous touchez les vies des gens, il y a des choses extraordinaires qui peuvent arriver dans la vie d'une Église et dans la vie de tous et chacun. C'est quelqu'un qui emploie des multitudes de personnes. Mais tout ça parce qu'il y a un peuple de Dieu qui a décidé de faire plus que d'être assis.
Amen.
Tout ça parce qu'il y a un peuple de Dieu qui, au lieu de dire, écoute, j'ai juste alléluia, j'ai juste une prière pour toi, mon frère. Il dit, non, écoute, peut-être que je ne peux pas t'héberger, mais je peux te nourrir. Peut-être que je ne peux pas faire ceci, mais voilà ce que je peux faire. Et j'aimerais te défier parce que quand on dit, je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance. C'est ça aussi. Quelle est la puissance que Nouvel Espoir a sur vous? Est-ce que tu viens ici, puis tout ce qu'on a, c'est juste la prédication qu'on vous donne? Est-ce que tu as besoin de plus? Quelle est la puissance que tu as, toi, sur ceux qui t'entourent? Est-ce que tu veux voir un impact dans cette ville? Ou c'est juste, oh, Seigneur, je te suis, moi, c'est dans ma chambre que tout se passe et c'est fini? Et j'aimerais te dire que Dieu veut plus que ça pour toi. Dieu veut plus qu'une relation privée. Parce que tous ceux qui ont des dieux polythéistes, tous ceux qui suivaient Jupiter, tous ceux qui suivaient Saturne, tous ceux qui suivaient tous ces autres dieux, c'est ça qu'ils avaient. Ils avaient leur religion et leur vie. Jésus veut diriger ta vie. Jésus veut être la puissance de ta vie. Et pour qu'il le soit, il va falloir que tu prennes des risques. Il va falloir que tu dises, oh, tu sais, j'aime pas trop les enfants, mais je vais être dans le service des enfants. Seigneur, fais quelque chose. J'en ai même pas, Seigneur. Je m'étais promis que je n'aurais pas d'enfant toute ma vie. Tu vas avoir une joie qui va embarquer dans ton cœur. Jésus veut dire que peut-être que tu dis, ah, tu sais, moi, être avec des gens d'autres ennemis, d'autres pays, j'aime moins ça. Jésus dit, écoute, commence à parler, commence à dialoguer, commence à apprendre, commence à connaître quelqu'un d'autre, sors de ta bulle. Jésus est en train de te dire présentement, tu sais, à chaque fois que tu regardes le PowerPoint du pasteur, tu dis, ah, il a oublié un « e ». Ça te fait mal. Jésus dit, c'est toi, tu es appelé à corriger les textes de l'Église Nouvel Espoir. Tu es appelé dans ce lieu, tu es appelé à corriger tous les « e ». Si ça te passionne à ce point-là, Jésus te dit, peut-être tu es dans ce lieu, Seigneur, oh, aujourd'hui j'aurais tellement aimé jouer de la guitare. Tu sais, le pasteur, il a fait tomber son pic de foi, puis moi, je n'aurais pas fait tomber. Jésus dit, c'est toi, tu as appelé, lève-toi, Jésus t'appelle. C'est une puissance. C'est une puissance. Quand tu n'as pas honte de l'Évangile, l'Évangile devient une puissance. Monsieur Chris Gardner n'avait pas honte. N'avait pas honte de l'Évangile. N'avait pas honte du travail. Il dormait, il était avec son fils. Un endroit touchant. Je dis, puis ça m'ébranle. Un endroit touchant de ce document, c'est quand il est avec son fils dans la salle de bain. Tu vois cet homme, tu vois sa souffrance, puis tu le vois avec son fils. Si on a dormi ici. Tous les matins, je te lavais. Tous les soirs, j'ai promis que la première des choses que tu vas voir tous les matins, c'est moi. La dernière chose que tu vas voir, c'est moi. Je t'emmenais pour te faire garder. J'avais juste l'argent pour t'emmener à la garderie et de l'argent pour un peu d'argent pour manger. Le restant, on l'avait à l'église. Puis tu vois le garçon qui le regarde, ou juste un multimillionnaire. Il peut acheter des maisons et des maisons. Il peut lui acheter des lunchs et des lunchs, mais ce n'est pas ça, c'est que ça commence dans la souffrance.
Amen. Amen.
Hey, beaucoup de gens ne veulent pas souffrir. Tout le monde veut aller au ciel, personne ne veut mourir.
Amen.
Oh, Jésus, emmène-moi au ciel, mais je ne veux pas mourir. Chris Gardner est mort. Dieu te demande de mourir. Oui, ça va demander que tu te lèves le matin. Oh, oui, ça peut demander que tu prennes le bus. Oh, Seigneur, je n'ai pas encore la BMW. Pourquoi je dois venir à 8 heures à l'église? Dieu te dit, ça demande ça d'abord. Viens dans le bus. Viens, prends ton bus. Oui. Je suis ici, je prêche. Mon père, il n'y avait pas de voiture quand il m'emmenait à l'église au départ. Je donne souvent cette histoire. Mon père me transportait, prenait le bus. Et jamais, jamais j'ai entendu cet homme me dire... Oh, aujourd'hui, là, on n'a pas de voiture. Non, je me rappelle, une fois, elle a dit, écoute, c'est devenu difficile, on va aller prier devant une voiture. On a prié devant cette voiture, puis je me vois encore enfant à 5 ans et demi, 6 ans. Oh, puis on était là en langue, oh, koraba, karaba. Je me vois avec mon père, puis quand mon père nous disait de prier, là, c'était, les papas africains sont directs, hein? On prie! Alléluia! Oh, hallelujah! C'est pas est-ce qu'on prie, s'il vous plaît? Est-ce que tu vas prier? Prier ou pas prier? Non, on prie! Hallelujah! Oh! Est-ce que tu ressens? Oui, je sens l'esprit. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Dieu est bon. Dieu est bon. En quelques mois, cette voiture, on l'a achetée. Le propriétaire de cette voiture est ici. Il est en arrière, M. Gauthier.
Oh.
Sa fille, c'est ma femme.
Oh.
Qui aurait pensé à ça?
Oh.
Tout a commencé avec une Omni. J'aurais jamais pensé à ça. Quand Dieu fait des choses, Dieu le fait de manière puissante. Je ne pense pas que quand mon père a prié pour cette voiture, il savait... Et le parcours n'est pas toujours un beau parcours, parce que l'être humain cherche un parcours parfait. L'être humain cherche un parcours sans erreur. Mais allez dans la Bible, il n'y a pas de parcours sans erreur. Le seul parcours qui est sans erreur, c'est Jésus.
Amen.
Confions-nous en Jésus. Confions-nous en Jésus. En conclusion, aujourd'hui, j'aimerais te dire que ça vient premièrement du juif, comme je dirais, et du grec. Donc, commence par toi. Commence par toi. Si tu es assis depuis des mois et des mois dans toutes les églises dans lesquelles tu as été quelqu'un d'assis. J'aimerais te dire, c'est Jésus qui est assis à la droite du Père, pas toi. Toi, il t'a demandé, debout, bouge. Fais de quoi? Hey, qu'est-ce que je peux faire? Et certaines des personnes ici, vous savez, on a tous des parts différentes. Si tu n'es pas dans un service, ce n'est pas grave. Il y en a, c'est les finances. Il y en a, Dieu vous a béni de manière dans les finances. Et j'aimerais vous dire, vos finances font la différence dans cette église.
Amen.
Ne lâchez pas. On prie pour vos entreprises. On demande à Dieu de vous bénir, de multiplier,
Amen.
De vous donner encore plus.
Amen.
Parce que sans cela, on ne peut pas avancer. À Rome, regardez la société romaine, il y avait les financiers, il y avait ceux qui envoyaient la guerre, il y avait les soldats, il y avait les politiciens, il y avait le Sénat. J'aimerais te dire que le royaume des cieux est mieux organisé que Rome. Il y a de tout, on a besoin de tout le monde. On n'a pas tous le même appel. Et ne sois pas jaloux de ton frère. Si ton frère est béni, viens en Lamborghini à l'église, pose-lui la question, qu'est-ce que tu fais? Puis comment je peux travailler comme toi? Elle dit, je suis tellement béni de te voir dans cette voiture que ça me motive de faire plus dans la vie.
Amen.
C'est ça que tu devrais dire. Et Dieu va faire des grandes choses dans ta vie parce que la même ambition qui entraîne notre chute et notre péché, cette ambition, si on la soumet à Jésus, elle peut nous mener au progrès. Et j'aimerais te dire aujourd'hui de soumettre ton ambition à Jésus afin qu'il t'emmène, toi, au progrès. On va s'incliner nos têtes. Père Céleste, je te remercie. Je te remercie pour l'œuvre que tu fais. Je te remercie pour qui tu es. Seigneur, ce message a pour trait, cette série a pour trait le cœur de Paul, qui était d'attirer tout être humain à Jésus. Jésus soit le centre. Soit le centre des familles. Sois le centre de tous ceux qui viennent ici. Que nous soyons connus comme un lieu qui ramène les gens vers Jésus. Seigneur, que chacun des chrétiens de Nouvel Espoir soit connu comme un chrétien qui ramène les gens à Jésus. Et qui reconnaît ta puissance. Seigneur, tu es puissant. Si quelqu'un est venu avec une maladie ici, toi tu es puissant pour guérir. Toi tu es puissant pour délivrer. Si quelqu'un n'a pas d'emploi, toi tu es puissant pour lui trouver de l'emploi. Si quelqu'un n'a pas d'intelligence, tu es puissant pour l'aider à avoir la structure dont il a besoin afin qu'il finisse son diplôme. Seigneur, il y a des gens ici qui ont arrêté de persévérer. Et Seigneur, toi, tu veux que ton peuple persévère. Dans la parole, tu as écrit, il est écrit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans la prière, dans la communion fraternelle. Seigneur, emmène ton peuple à persévérer. Touche ton peuple encore une fois. Seigneur, moi, je sais que les mois qui viennent, nous allons voir des grandes choses ici à Ottawa. Nous allons voir ta manifestation ici dans ce lieu. Nous allons sentir ta présence encore plus qu'on n'a jamais senti avant, Seigneur. Parce que ton peuple va décider. Le réveil va commencer dans le cœur de ton peuple. Le réveil, c'est un peuple qui sert. Le réveil, c'est un peuple qui réalise que son Dieu est puissant. Le réveil, c'est un peuple qui dit... J'en ai marre du statu quo. Qu'est-ce que je peux faire? Le réveil, c'est de dire, au lieu de dire, qu'est-ce que l'Église peut faire pour moi? On dit, qu'est-ce que moi je peux faire pour l'Église? On dit, qu'est-ce que Jésus peut faire pour moi? Qu'est-ce que moi je peux faire pour toi, Jésus? Tu as tellement fait, Jésus. Tu as tout fait pour nous. Et permets à ton peuple de réaliser que toi, tu as tout fait. Toi, tu es mort pour nous. Et Seigneur, nous n'avons pas besoin de nous frapper, nous n'avons pas besoin d'avoir des meurtrissures, nous n'avons pas besoin de nous flageller, nous n'avons pas besoin de faire semblant de nous sanctifier par nous-mêmes parce que tu as tout fait. Seigneur, permets que ta grâce nous fasse réaliser ta puissance. Seigneur, que la conviction du Saint-Esprit touche ton peuple ce matin. Et je te remercie. Je te remercie pour ce que tu fais dans les cœurs et ce que tu vas faire cette année. Dans ton nom tout-puissant.
Vous venez d'écouter un message provenant de l'Église Nouvel Espoir, située au 2224 rue Inès à Ottawa, au Canada. Notre code postal est le 41V4C4. Vous pouvez accéder gratuitement à nos messages par le biais de notre site web www.églisenouvelespoir.com. Si vous avez des témoignages de vie transformée au travers de ce ministère, écrivez-nous à transformation@églisenouvelespoir.com ou vous pouvez nous joindre au 613-909-7274.